Décryptage.
Adrien Delgrange.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, où que vous soyez sur la planète. Installez-vous, place à l'émission Décryptage.
RFI.
Persuadé qu'il fallait inventer une autre gauche en France.
Salut les sans Rolex. Salut les t-shirts sans costard. Les nassés des encerclés. Les larmoyants aux lacrymaux. Les têtes dures bien matraquées. Les flash-balais.
Jean-Luc Mélenchon décide alors de quitter le Parti Socialiste en 2008, 14 ans plus tard, avec la France Insoumise. Il s'impose comme le leader incontesté de la gauche, fort de ses 22% à la présidentielle, et réalise le coup de force, diront les uns, ou le coup de génie, diront les autres, de créer une union populaire pour les élections législatives du mois prochain. Union qui rassemble insoumis, écologistes, communistes et socialistes. Alors, même si le chemin est encore long et sûrement semé d'en avant une éventuelle victoire de cette union, ce rassemblement marque à coup sûr l'aboutissement d'une stratégie politique qui aura mis près de 15 ans à aboutir. Comment la France insoumise a-t-elle su s'imposer comme la première force de gauche? C'est notre décryptage du jour. Valentin Soubise, bonsoir, bienvenue.
Bonsoir.
Doctorant à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteur d'une thèse intitulée « Le populisme en pratique, la France insoumise à la conquête des classes populaires ». Et puis nous accueillons également Vincent Dain. Bonsoir, bienvenue.
Bonsoir.
Doctorant en sciences politiques à l'Université de Rennes, spécialiste des nouveaux partis de gauche radicale en Europe. Alors, pour comprendre la destinée, l'ascension de Jean-Luc Mélenchon, il faut remonter à 2005, dans la lutte dans le traité constitutionnel européen, il comprend qu'il y a une rupture entre le Parti socialiste et les classes populaires. Le non l'emporte alors que le PS appelle à voter en faveur de ce référendum constitutionnel. Vincent Dain.
Oui, effectivement. Alors, c'est vrai que si on devait retracer toute la trajectoire politique de Jean-Luc Mélenchon, on en aurait pour toute la soirée, mais ce qui est certain, c'est qu'effectivement, cette campagne pour le non au traité constitutionnel européen en 2005, c'est un jalon incontournable de son parcours. Et d'ailleurs, quand vous lisez aujourd'hui le texte de l'accord avec le Parti socialiste pour les élections législatives, la France insoumise y est présentée comme l'héritière du non au traité constitutionnel européen de 2005. C'est un moment fondateur pour Jean-Luc Mélenchon parce que à l'époque, bon, il est sénateur au Parti socialiste et avec son association pour la République sociale, il va s'engager pleinement dans la campagne pour le non, aux côtés d'autres figures de la gauche, mais à l'extérieur du PS, c'est-à-dire Marie-Georges Buffet pour le Parti communiste, ou encore Olivier Besancenot pour la LCR. Et c'est vraiment un moment où finalement les divisions profondes à l'intérieur du Parti socialiste sur la question de l'accompagnement, de la mondialisation, de la construction européenne vont se faire jour. Et c'est à mon avis, je pense, le moment où Jean-Luc Mélenchon va commencer à imaginer la possibilité de construire une autre gauche peut-être progressivement à l'extérieur du Parti socialiste. En tout cas, c'est un jalon important dans sa décision en 2008 de quitter le Parti socialiste.
Et pour vous, Valentin Soubise, c'est aussi le moment où Jean-Luc Mélenchon pense encore incarner, pour reprendre ses termes, la vraie gauche, alors que pour lui, le PS se droitise?
Oui, effectivement. Comme l'a dit Vincent, c'est sûr que c'est un événement qui est fondateur pour les militants qui sont autour de Jean-Luc Mélenchon à ce moment-là, en 2005, dans la campagne du non contre le TCE. Et ce qui est
traité constitutionnel européen.
C'est ça, exactement. Et en fait, ce qui est du coup important sur le fond, c'est que les mélenchonistes, le petit noyau militant autour de lui, qui milite encore au sein du Parti socialiste, c'est qu'ils vont se rendre compte, ils vont prendre conscience, ça va être ça leur nouvelle ligne politique, l'idée que le Parti socialiste n'est plus suffisamment implanté dans la société, n'est plus suffisamment en lien avec les forces vives du pays, et notamment des classes populaires. Et voilà, avec l'idée que les partis traditionnels de l'alternance, qui étaient le Parti socialiste et l'UMP, les partis de l'alternance ont défendu le oui à ce moment-là et la société, le vote, a donné le non de manière très majoritaire. Et à ce moment-là, Jean-Luc Mélenchon considère que les forces vives sont à l'extérieur du Parti socialiste et qu'il s'agit de les remobiliser, d'aller chercher finalement les exclus de la représentation, d'aller chercher les personnes qui ne se sentent plus représentées par les partis politiques pour les remobiliser dans des formes nouvelles, dans des options politiques nouvelles, pour refonder la gauche et pour refonder la République aussi, parce qu'il y a la question de la Sixième République qui va se poser assez rapidement.
Et c'est à ce moment-là qu'il décide, après, quelques années plus tard, de créer le PG, le Parti de gauche.
Tout à fait. Donc voilà, la sortie du Parti socialiste ne se fera pas dès 2005. Il va attendre d'avoir perdu ses derniers espoirs de prendre la direction du Parti socialiste. Donc les mélenchonistes vont mener des batailles internes encore pour prendre la direction du PS. Et quand ils vont considérer qu'il n'y a plus aucune chance et qu'ils vont poursuivre leur processus de marginalisation à l'intérieur du Parti socialiste, alors même qu'il y a une situation de crise économique importante qui, selon eux, devrait leur donner beaucoup plus d'audience, ils vont décider de prendre le risque de sortir du Parti socialiste, de fonder le Parti de gauche et de chercher d'emblée à devenir le nouveau parti de gouvernement à gauche. Donc il y a cette ambition-là qui est affichée dès le départ, avec l'idée de remplacer le PS à ce moment-là.
Le Parti de gauche qui intégrera plus largement le front de gauche, Vincent Dain.
Oui, tout à fait. Alors juste pour revenir un peu sur ce que disait Valentin, je pense que 2008, c'est l'autre étape clé, la construction du Parti de gauche qui va en fait avoir un rôle décisif quand on regarde sur le temps long ce qu'est aujourd'hui la France insoumise, parce que le Parti de gauche, c'est un incubateur de cadres. La génération de Bastien Lachaud, de Manuel Bompard, d'Adrien Quatennens, toutes ces figures-là sont passées par le Parti de gauche. Et le Parti de gauche, c'est aussi un laboratoire d'idées absolument fondamentales pour comprendre ce qu'est la France insoumise et le mélenchonisme. D'abord parce que c'est dans ce cadre-là du Parti de gauche que va s'opérer vraiment la conversion de Jean-Luc Mélenchon et de ses proches à l'écologie politique, avec des figures comme Corinne Morel-Darleux ou l'ancienne députée socialiste Martine Billard, qui vont participer vraiment de cette intégration de l'écologie politique dans le logiciel du Parti de gauche, dont le triptyque à l'époque d'ailleurs du Parti de gauche, c'est socialisme, république, écologie. Et ils vont faire tout ce travail de construction doctrinale autour de l'écosocialisme et aussi autour de la Sixième République. C'est vraiment à ce moment-là que, avec notamment l'inspiration des révolutions citoyennes latino-américaines, que Jean-Luc Mélenchon et ses proches vont imaginer ce qu'est la Sixième République. Donc je pense que c'est important de préciser hein, que toute cette doctrine elle va vraiment irriguer ensuite le travail programmatique de la France insoumise, avec cette idée de la règle verte, de la planification écologique, de la Sixième République. Mais effectivement, l'étape un petit peu intermédiaire, on va dire, en 2012, c'est la création du Front de gauche, qui vient un peu concrétiser l'idée qu'avait Jean-Luc Mélenchon au moment de quitter le Parti socialiste, c'est-à-dire de faire un front commun de toutes les formations à la gauche du Parti socialiste pour essayer de dépasser le Parti socialiste sur une ligne résolument anti-libérale, avec l'échec qu'on connaît en 2012 et la dislocation qui va s'en suivre dans les années suivantes au fur et à mesure, notamment des élections intermédiaires.
Comme tout jeune parti, hein, le Parti de gauche à l'époque a une très faible implantation locale. C'est à ce moment-là qu'il s'appuie sur la structure hein, du Parti communiste français, qui a de nombreux élus, notamment à travers le territoire, et qui lui permet notamment d'obtenir hein, les parrainages pour se présenter à l'élection présidentielle, Valentin Soubise.
Oui, tout à fait, parce que Jean-Luc Mélenchon, quand il quitte le Parti socialiste, il part sans ressources propres très importantes. Il prend un risque quand même, parce qu'à l'intérieur du Parti socialiste, il est élu, etc. Donc il prend le risque d'en sortir, et c'est le Parti communiste qui va fournir les ressources institutionnelles, le réseau d'élus, le réseau de militants de longue date sur les territoires. Et ce qui est significatif, c'est que dès la création du Front de gauche, du coup, aux européennes de 2009, Jean-Luc Mélenchon et le Front de gauche vont réussir à franchir la petite marche de passer devant le nouveau parti anticapitaliste, devant le NPA à l'époque, et à commencer par cette petite étape d'être la première force de gauche radicale, alors que le Parti communiste, depuis des années, était dans un processus de marginalisation, avec, pareil, Georges Buffet, qui avait fait des scores très faible en 2007, qui n'avait pas dépassé la barre des 2%. Et donc, voilà, la première étape, c'est celle-là, c'est celle de la coalition de différents groupes politiques, de différents partis, dont les principaux étaient le Parti de gauche et le Parti communiste français.
La France insoumise en tant que parti ne sera créée, si j'ose dire, qu'en février 2016, en vue de la présidentielle de 2017, avec à la clé 17 députés aux législatives.
Le peuple français dispose à l'Assemblée nationale d'un groupe, la France insoumise,
cohérent, discipliné, offensif.
Mélenchon en 2017. Vincent Dain, ce qui est intéressant dans la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, c'est que c'est bien l'homme qui façonne son parti et non le parti qui façonne l'homme. Qu'en pensez-vous ?
Oui, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'en 2016, Jean-Luc Mélenchon il décide vraiment de lancer sa propre plateforme présidentielle en s'affranchissant d'une certaine façon de la logique de coalition du Front de Gauche qui prévalait jusqu'alors. En fait, il a un petit peu acté la mort du Front de Gauche en voyant notamment qu'aux élections locales, le Parti communiste n'était pas forcément disposé à rompre intégralement avec le Parti socialiste. Et comme Jean-Luc Mélenchon ne souhaitait pas être associé au bilan de François Hollande, il a décidé de lancer pleinement sa propre plateforme, la France insoumise, qui, du point de vue de la sociologie des partis politiques, est quand même un ovni ou un objet partisan assez intéressant parce qu'effectivement, c'est une entreprise politique extrêmement personnalisée. C'est une entreprise politique qui a été fondée pour le projet de Jean-Luc Mélenchon autour d'une plateforme numérique avec des citoyens et des citoyennes ordinaires qui sont appelés à le soutenir et on peut adhérer en quelques clics à la plateforme La France Insoumise. On sent bien qu'à ce moment-là, il y a toute une série de phénomènes politiques qui sont passés par là, comme Podemos en Espagne, comme la campagne de Bernie Sanders, avec des entreprises politiques qui sont en fait beaucoup moins structurées, qui s'appuient beaucoup plus sur un leadership charismatique, médiatique, et sur une capacité à mobiliser à fond sur les réseaux sociaux, à organiser des grands événements, à dépoussiérer la communication politique. Mais c'est vrai que en fait, le Parti socialiste va constituer une forme de modèle un peu repoussoir au moment où Jean-Luc Mélenchon va constituer la France insoumise. Il y a un petit peu cette idée que la France insoumise ne doit pas s'embarrasser d'une structure trop lourde, ne doit pas s'embarrasser d'une logique de courant en interne qui pourrait un petit peu miner la dynamique présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Donc ça se structure effectivement autour d'un noyau dur autour de Jean-Luc Mélenchon qui va s'élargir au groupe parlementaire des 17 députés et ensuite une base militante qui est très active sur le terrain et qui grossit de façon assez exponentielle d'ailleurs maintenant en ce moment là après l'élection présidentielle. Mais en fait ce qui est assez significatif c'est qu'il n'y a pas de structure intermédiaire. On a vraiment le noyau dirigeant à Paris, la base militante, mais pas véritablement de structuration au niveau local.
Sur l'échiquier politique français, la France insoumise, classée à l'extrême gauche, présentée comme la gauche radicale, c'est ce qui caractérise aussi Jean-Luc Mélenchon. Valentin Soubise, où placer le curseur du radicalisme dans la politique de Jean-Luc Mélenchon ?
Alors c'est une question qui n'est pas forcément évidente, parce que pour savoir si c'est une force d'extrême-gauche ou de gauche radicale, voilà, c'est des forces qui se positionnent les unes relativement aux autres. Si on prend le programme de François Mitterrand en 1981, il était probablement plus radical, plus à gauche que le programme de la France insoumise en 2017 ou de l'Union populaire en 2022. Donc de ce point de vue-là, on ne peut pas dire que le programme de Jean-Luc Mélenchon soit un programme de gauche radicale. Néanmoins, étant donné la domination des sociodémocrates et des sociolibéraux sur la gauche depuis jusqu'à l'élection de François Hollande en 2012, par rapport à ces forces-là, effectivement, on peut considérer que c'est le pôle de la gauche radicale qu'il a emporté aujourd'hui, qui exerce une domination en particulier sur les scrutins présidentiels qui sont très personnalisés et qui permettent à la figure charismatique de Jean-Luc Mélenchon de dominer. C'est une domination qui est beaucoup plus difficile à construire dans les scrutins intermédiaires parce que justement l'implantation locale de la France insoumise est faible. Elle a du mal dans les scrutins intermédiaires à remporter des mairies de grandes villes. Elle n'a pas forcément consacré beaucoup de moyens pour essayer d'y arriver. On aurait pu imaginer par exemple que Jean-Luc Mélenchon cherche à se présenter à Marseille. Il a plutôt désinvesti le local parce que la stratégie de la France insoumise, c'est de gagner l'élection présidentielle et c'est de considérer que c'est le scrutin déterminant qui va permettre de renverser la table. Donc de ce point de vue-là, voilà, Jean-Luc Mélenchon, par sa figure même, il représente une forme de radicalité qui, au-delà du programme, étant donné, voilà, c'est souvent quelque chose qui est mis en avant aussi par les militants, qui est parfois une ressource militante et parfois plutôt un embarras, c'est le caractère de Jean-Luc Mélenchon, avec l'idée finalement que sa personnalité forte, par elle-même, serait une forme de radicalité, et serait quelque chose de mobilisateur, notamment dans les quartiers populaires, dans les classes populaires, etc.
Jean-Luc Mélenchon avec une progression hein, entre chaque scrutin présidentiel jusqu'à 22% lors de ce dernier scrutin, et avec cette idée donc de créer une union populaire en vue des législatives du mois prochain. Écoutez cet extrait, c'était lors de son discours le 1er mai, place de la République à Paris.
Nous avons pris la décision mûrie, réfléchie, de tout sacrifier aux objectifs du combat, de passer par-dessus des rancunes dont certaines étaient fondées, qu'on me permette de le dire. Nous avons décidé de passer par-dessus des divisions qui avaient une raison profonde et que nous n'avons pu surmonter que parce que vous êtes intervenus avec vos bulletins de vote pour décider de quel côté vous vouliez que les choses aillent.
Quinzaine d'années après avoir quitté le Parti socialiste, Jean-Luc Mélenchon réussit donc ce rassemblement, donc cette union populaire. Coup de force, coup de génie, Vincent Dain.
Alors, ce qui est sûr, c'est que ce qui peut s'apparenter à un coup de génie ou en tout cas un coup politique, c'est sa décision de présidentialiser et de personnaliser l'élection législative. Parce que lui sait très pertinemment que sa base électorale qui s'est mobilisée pour la présidentielle court le risque de se démobiliser pour l'élection législative. Donc de ce point de vue, c'est une réussite. Et je pense qu'il est dans une perspective, dans un état d'esprit qui diffère assez largement de 2017. En 2017, avec son score de 19,58%, il est plutôt dans l'optique de s'installer comme le seul et le premier opposant à Emmanuel Macron, sans véritablement tendre la main aux autres forces de gauche, puisque ce qu'avait proposé comme rassemblement la France Insoumise en 2017, c'était les partenaires doivent signer une charte et s'engager finalement à rejoindre plus ou moins la France Insoumise pour participer à un combat commun. Et je pense d'ailleurs que les autres forces de gauche n'étaient pas non plus complètement prêtes à se rapprocher de la France Insoumise. Or, aujourd'hui, la situation est complètement différente parce que le rapport de force a été confirmé par cette élection présidentielle. Le centre de gravité de la gauche française s'est déplacé vers Jean-Luc Mélenchon parce que, d'une certaine façon, il a répondu aussi à des demandes qui sont présentes dans la société française. On parle beaucoup de la droitisation de la société française, de l'opinion publique, mais finalement, on voit qu'il existe toujours dans la société de fortes aspirations à l'égalité, à la redistribution, à l'écologie, et Jean-Luc Mélenchon a su l'incarner. Et donc, le centre de gravité a basculé de son côté, et il se trouve aussi aujourd'hui que finalement, les autres forces de gauche sont un peu au pied du mur, quelque part, pour leur propre survie financière. Il n'y a pas d'autre choix que d'aller travailler à construire cette alliance avec Jean-Luc Mélenchon. Et je pense d'ailleurs que la France Insoumise elle-même est assez consciente des bénéfices qu'elle peut tirer à moyen terme d'être un petit peu les grands bâtisseurs de cette alliance, parce qu'il y a une aspiration majoritaire dans l'électorat de gauche à construire un petit peu cette maison commune. Et je pense qu'ils ont bien compris qu'ils avaient intérêt à moyen terme, y compris d'ailleurs parce que c'est fort probable que les affrontements politiques entre les différents partis de gauche se poursuivent après les élections législatives. Mais ils ont compris qu'ils avaient, à cet instant en tout cas, intérêt à construire ce rassemblement. Donc effectivement, de ce point de vue-là, c'est plutôt bien joué.
Et un tout dernier mot avec vous, Valentin Soubise, quant à la succession éventuelle un jour de Jean-Luc Mélenchon, âgé de 70 ans, l'a-t-il préparé ?
Alors c'est vrai que la question de la succession, c'est un problème épineux pour les militants de la France Insoumise. C'est pour ça que cette personnalisation des législatives, ça a été aussi une manière de prolonger un petit peu la dynamique de personnalisation autour de Mélenchon, parce qu'on voit que sa personnalité permet de fédérer des milieux sociaux qui sont aussi très divers. Il parvient à obtenir des scores très importants dans les centres-villes, de classe supérieure intellectuelle, etc., dans des quartiers populaires immigrés, etc. Et donc, on ne voit pas trop de personnalités qui auraient cette envergure et qui seraient connues des électeurs de manière large et qui pourraient faire consensus.
Merci à tous les deux, Valentin Soubise et Vincent Dain, de nous avoir éclairés sur les origines de la France insoumise jusqu'à nos jours. À suivre, le débat du jour sur RFI.